Gloire à Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver entre frères et sœurs, conformément au psaume qui nous dit, le psaume 133, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et à présent, sa bénédiction, c'est sa parole qu'il veut nous donner. Et nous allons reparler encore de Jésus. Comme je l'ai dit, ça peut paraître peut-être exagéré pour certains que souvent je parle de Jésus, mais c'est Jésus qui est le centre de tout dans l'univers. Et dans la foi chrétienne, tout a été créé par lui et pour lui, nous disent les Écritures. C'est lui la solution, c'est lui qui est tout. D'ailleurs, c'est de cela que nous allons parler. Notre prédication d'aujourd'hui s'intitule Le champion. Jésus est le champion, entre parenthèses, toute catégorie, voilà, dans toutes les dimensions. De grandeur, il reste toujours le plus grand. Il reste le tout-puissant dans tout ce qu'on peut choisir de bien, de bon, de puissant, de fort, de beau, c'est toujours lui. Nous allons diviser ça en deux parties. La première partie, nous allons citer les je suis. Voilà. Tout ce que Jésus dit de lui-même. Pas tous les je suis, mais on va en prendre environ 80%. Puisqu'il y a aussi question de temps. Voilà. Et le but de tout ça, c'est quoi? C'est que le chrétien sache à qui il a affaire en croyant en Jésus. Et le non-chrétien aussi. Parce que vous savez, nous vivons une époque où il y a beaucoup de doctrines, beaucoup de théories. Et ça a été prédit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de doctrines et de théories. C'est pourquoi il faut que ta foi soit claire, simple et puissante. Et pour cela, tu dois connaître, je dois connaître l'objet de ma foi d'une manière claire. L'apôtre Paul, dans ses difficultés, il dit à Timothée, moi je sais en qui j'ai cru. C'est important que tu saches. Pas forcément pour exprimer cela en public, mais que toi, tu sois fondé sur quelque chose d'inébranlable qui te permettra de vivre dans la liberté et dans toute autorité, dans l'autorité totale. Il faut que le chrétien sache sur quoi il est assis en étant croyant de Jésus. Tu es assis sur du solide, sur de l'or. Comme je l'ai dit précédemment, il y a beaucoup de doctrines, de théories, beaucoup de façons de faire. Il est important donc que l'on comprenne que dans tout ce micmac-là, il y a un seul champion. Tout le reste est par terre et très bas. Lui, il est en haut, dans toutes les dimensions qu'on peut choisir. Commençons par lire les je suis dont lui-même il parle. Quand il dit je suis, parce que vous ne verrez pas d'autre dire je suis. C'est lui-même, il dit je suis, il sait ce qu'il est. Il dit moi je viens d'en haut, je sais ce que je dis, je viens d'en haut. Jean 8, 58, le premier je suis qu'on va citer aujourd'hui, qui nous montre que Jésus est au-dessus de tout. Il est le champion de tout ce qu'on peut prendre comme intermédiaire. Vous savez, beaucoup de frères et sœurs sont perturbés parfois quand on leur pose des questions. Mais comment il peut être Dieu, fils de Dieu, homme à la fois? C'est compliqué tout ça. Mais oui, mais ce qui nous rassure, c'est que dans tout ce que nous pouvons prendre comme intermédiaire, lui, il est de loin le champion dans la bonté, dans l'amour, dans la vérité, dans la puissance. Il est le champion dans tout ça. Mais si maintenant il nous dit des choses qui nous dépassent, mais qui ne sont pas fausses, pourquoi ne croirions-nous pas? Parce qu'il nous a déjà démontré sa pureté. Il nous a déjà démontré sa sainteté. Il nous a démontré son désintéressement par rapport au matériel. Il nous a montré sa toute-puissance. Alors, il nous a montré que c'était la personne la plus qualifiée pour parler de Dieu et pour être Dieu. Mais si après il nous dit des choses qui sont complexes pour nous, pourquoi on va rejeter parce que c'est complexe pour nous avec nos petits cerveaux? Non. Il faut que tu sois sûr de ce que tu crois et de ce que de ce sur quoi tu es assis. C'est Jésus, le champion toute catégorie. Nous lisons d'abord Jean 8, 50.
Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. »
Avant qu'Abraham fût, je suis. Mais parce que ils parlent aux Juifs. Les Juifs aussi lui citent leur champion. Notre champion, c'est Abraham. Hein? Notre champion, c'est Abraham. Toi, tu peux te comparer à Abraham. Jésus leur dit, mais mes amis, avant qu'Abraham existe, moi je suis. Il n'a pas dit moi je fus ou j'existais. Il dit je suis. Il a dit le même mot, la même phrase que Dieu dans Exode 3, 14, quand on lui demande son nom, il dit mon nom c'est je suis. Donc pour dire que Dieu n'a pas de futur ou de présent ou ni de passé, il est toujours. Il est hors du temps. Jésus dit, je suis avant qu'Abraham n'existe. Moi, je suis. Je suis hors du temps. Je suis plus grand qu'Abraham. Et les Juifs étaient dépassés. Bien-aimé, ta foi repose sur quelqu'un qui est. Donc Jésus, il est je suis. Il est Dieu. Car seul Dieu, quand on lui a demandé son nom, il a dit, mon nom, c'est je suis. Tu diras au fils d'Israël, mon nom, c'est je suis. Et Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il est avant Abraham. Mais bien sûr, pour venir un homme, il vient par le ventre de Marie. Pas de problème. Il a un commencement humain. Mais ce n'est pas un commencement en tant que fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, Jésus, il dit, je suis. Vous savez, j'ai du mal à dire, il est, ça, parce que même, ça n'existe pas en hébreu. Voilà. Le verbe être est réservé à Dieu seul, quand il dit je suis. Et pour dire des choses qui ressemblent à notre verbe être, ils emploient une autre formulation. C'est pourquoi j'ai du mal à dire « il est ». Je dis tout simplement, Jésus dit « je suis ». Pourquoi ? Parce qu'il est le seul à conjuguer ce verbe-là ainsi. Voilà. Il est le seul à être dans un présent éternel. C'est pourquoi il n'y a pas de « il est ». Voilà, bien-aimé, qui est Jésus ? Il est « je suis ». Il existe avant, d'éternité en éternité. Et cela est confirmé dans ceux qui voudraient lire plus tard dans Michée 5, 1, 2. On dit que son existence remonte au temps d'éternité. Donc il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Lui-même le dit clairement, je suis. Vous savez tout ce qu'on va partager aujourd'hui. Le non-chrétien ne peut pas toujours le comprendre facilement parce qu'il va réfléchir à la manière humaine limitée. Mais c'est bien que toi, tu sois fondé, toi que tu sois fondé. Que tu puisses dire, comme Paul a dit à Timothée, je sais en qui j'ai cru. C'est bien que nous soyons fondés. Nous ne soyons pas déstabilisés quand on va voir un faux pasteur millionnaire et avec de faux enseignements, vouloir l'imiter parce qu'il semble avoir réussi. Non, c'est Jésus qui existe. Les faux pasteurs passeront. Les présidents passent. Jésus, il est « je suis ». Avant qu'Abraham ne fût « je suis ». Au-dessus même d'Abraham, il est le champion. À un moment donné, il dit aux Juifs, mais les gens à qui Jonas a prêché à Ninive, ils ont été touchés par la prédication de Jonas et ils se sont convertis tous. Mais ici, il y a plus que Jonas. Et il dit, mais les gens ont fait des centaines de kilomètres pour venir écouter la sagesse de Salomon. La reine de Séba s'est déplacée avec un immense cortège pour venir écouter la sagesse de Salomon. Mais ici, il y a plus que Salomon. Il est le champion. C'est lui. Pourquoi aller vers les petits? Il faut aller directement vers le plus grand. Deuxième verset, Jean 8, 12. Vous allez remarquer qu'on n'est que dans Jean. Hein? Bon, ça va, ça. Vous savez, l'évangile de Jean, il est à part. Les trois autres évangiles, on les appelle les évangiles synoptiques. Ça veut dire qui ont la même philosophie, la même structure. L'évangile de Jean, il est unique par rapport à ces trois autres. Au fait, dans l'évangile de Jean, il n'y a pas beaucoup d'explications. Il y a la présentation, c'est tout. Il y a beaucoup. C'est pourquoi on trouve le « je suis chez lui ». Lui, il présente tel que Dieu est. C'est tout à chacun d'accepter ou pas. C'est ça l'évangile de Jean. Il dit « voilà ce que Dieu est ». Et ça, ce n'est que quelques exemples qu'on prend. Quand vous lisez tout l'évangile, il y en a plein de ce que Dieu est. Il dit « il est la vie ». Il dit les choses. Il n'explique pas. Il dit « voilà ce qu'il est ». Et lui-même saura expliquer dans le cœur par l'Esprit Saint. Jean 8, 12.
Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Amen, amen. Il dit « Je suis la lumière du monde. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Un monde où on appelle bien, mal, mal, bien, c'est dans les ténèbres. » Quand vous voyez la multitude de religions, vous comprenez quoi? Que le monde est dans les ténèbres, dans la confusion, puisque ces religions-là se contredisent. Mais il y en a beaucoup, avec beaucoup d'adeptes. Les doctrines, les théories qu'il y a dans le monde, elles se contredisent. C'est la preuve que toutes, elles sont fausses. Et il y a un problème parce qu'elles se contredisent. Et Jésus dit, mais tout ça, c'est les humains, c'est des fabrications humaines, c'est les ténèbres. Moi, je suis la lumière. Quiconque veut aller vers Dieu ne peut voir que par moi. C'est moi qui peux l'éclairer. Je suis la lumière du monde. C'est moi qui peux éclairer les humains sur leurs fautes, sur leurs tâches. Parce que sans la lumière, tu ne vois pas tes tâches. Sans la lumière, tu ne vois pas tes erreurs. Il dit, c'est moi la lumière, c'est moi seul qui peux montrer aux gens. Quel est leur problème? Vous savez, il y a un monsieur, on va prendre un exemple, un monsieur qui se croyait tout bon, parfait. Et donc, il a eu le courage, c'est dans Luc 18, de s'avancer auprès de Jésus pour dire, est-ce que tu peux me dire comment faire pour aller au ciel? Jésus fait la première mi-temps, il lui dit, ben, est-ce que tu appliques la loi, les lois que Moïse a données. Il dit, oh, pas de problème. Je les applique depuis que je suis jeune. Sauf que, dans les lois de Moïse, il y a un verset qui dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et lui seul. Lui seul que tu dois adorer. Pas autre chose. Alors Jésus lui dit, ben, il te reste une chose, vends tous tes biens et suis-moi. Il est écrit que cet homme est devenu tout triste. Il n'a pas pu satisfaire cette condition et il s'en est retourné s'éloignant de Jésus. Alors qu'il était venu chercher le salut auprès de Jésus. Cet exemple nous montre quoi? Cet homme se croyait dans la lumière parce qu'il se disait, j'applique toute la loi, je fais des dons. Alors, j'ai appris qu'il y a le Messie qui est là, le Saint des Saints qui est là. J'irai chercher la confirmation de mon salut auprès de lui. Mais quand il arrive auprès de Jésus, on lui fixe une condition qui l'éclaire, qui lui montre, parce qu'il est dit qu'il s'en est retourné parce qu'il était très riche. Jésus l'a éclairé sur un fait, c'est que cet homme avait de Dieu. Il avait l'Éternel, le Dieu d'Israël comme Dieu, mais il avait aussi la richesse comme Dieu. Jésus est la lumière du monde. Jusqu'en ce moment-là, cet homme pensait être correct. Mais face à la lumière, il a vu ses tâches, ses péchés. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est de venir se laisser sauver par lui. Parce qu'il n'est pas la lumière pour lumière. Il est lumière pour éclairer sur nos maladies, nos péchés. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Lorsque tu es malade, il y a les microscopes, il y a les tests sanguins qui montrent exactement qu'est-ce que tu as. Il y a les scanners, il y a les IRM, tout ça qui montre qu'est-ce que tu as exactement. Et quand on sait qu'est-ce que tu as exactement, le but c'est pour t'apporter la solution idéale. Et Jésus est la lumière, il montre à chacun son vrai problème, de sorte à lui apporter la lumière, la solution idéale. Bien sûr qu'on va voir qui est encore lui-même. Je suis la lumière du monde. Bien-aimé, ne te compare pas aux autres humains. Tu risques de te trouver bon. Approche-toi de la lumière qu'est Jésus, qui t'éclaire sur ce que tu es. À force de te comparer aux autres, tu risques de te croire parfait et correct, ce qui est faux. Il n'y a qu'un seul qui est parfait et correct, c'est Jésus. Il l'a dit dans Jean 8, 46. Qui me convaincra de péché? Parce que quand on dit il est la lumière, il est la lumière qui éclaire, mais il est aussi la lumière dans le sens où en lui, il n'y a point de tâche. Dans Jean 8, 46, il dit, qui va me convaincre que j'ai péché? Il n'avait aucun péché en lui. 1 Pierre 2, 22 le dit aussi. En lui, il n'y a point de péché ni de fraude. Il est la lumière. Prenez les autres prétendus hommes de Dieu. Vous les trouverez avec beaucoup de péchés. Comme j'ai dit à quelqu'un d'une religion qui me harcelait, j'ai dit, mais vous voulez que je suive votre prophète qui a eu 9 femmes, dont une de 6 ans? C'est ce que vous appelez prophète? Qui a tué sa belle famille? Qui a fait des guerres, tué des gens? Et vous voulez que je laisse le champion poursuivre cette personne-là? Ah non, mais ça, c'est Internet qui dit ça. Ce n'est pas Internet qui dit ça. C'est les hadiths qui disent ça. C'est les histoires sur sa vie qui disent ça. Comme les Juifs viennent dire, mais Moïse, toi, tu veux dire que tu es plus grand que Moïse. Mais Moïse n'est pas la lumière, puisque Moïse a péché aussi. Il a raté la terre promise à cause de ça. Jean-Baptiste lui-même, il dit, je suis venu rendre témoignage à la lumière. Mais je ne suis pas moi-même la lumière, je suis venu rendre témoignage à la lumière. Moi, en tant que prédicateur, je ne suis pas la lumière, je suis venu rendre témoignage à la lumière. Il faut te confier en la lumière du monde. Il est le plus pur, le plus brillant de fils de l'homme. C'est lui qui éclaire réellement, c'est Jésus. Sans lui, tu vas t'égarer parce que tu ne vois pas. tu te crois bon. Sans lui, tu vas faire des mauvais choix. C'est lui qui est clair. Ce jeune homme, cet homme riche, ce jour-là, il a su qu'il était dans les ténèbres. Parce que Jésus, la lumière, était là. Et il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup d'exemples. On voit Nicodème, quand il vient voir Jésus, lui, il est docteur de la loi. Jésus lui dit, mais non, mais Nicodème, sans la nouvelle naissance, on ne peut pas aller au ciel. Nicodème pensait que c'était l'application de la loi qui sauvait. Il dit, mais non, puisque ce qui est chair est entaché de péché, est entaché de mal, ça ne peut pas aller au ciel. Il faut une nouvelle naissance. C'est là que Nicodème se rend compte clairement qu'il était perdu. Il pouvait le sentir comme le monsieur riche qui est venu voir Jésus. Il pouvait avoir des appréhensions. Mais quand ils sont arrivés vers Jésus, ils ont vu clairement qu'ils étaient perdus, qu'ils avaient le péché. Jésus rend ça clair. Il est la lumière, c'est lui qui montre le chemin. Et ce chemin, c'est lui-même. Jean 14, 6. Jean 14, 6.
Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est les « je suis ». C'est clair. Bien aimé, il n'y a pas, quand quelqu'un dit « je suis », rien n'est plus clair. Et il dit « le ». Ça veut dire qu'il est le seul à l'être. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, quand tu es fondé sur quelqu'un comme ça, pourquoi tu vas aller ailleurs, tenter une expérience ou une autre? Lui dit qu'il est le chemin. Tu veux aller au paradis, tu veux aller à Dieu, le chemin c'est lui. Tu veux connaître la vérité. Quelle est la vérité? La vérité, c'est lui encore. Donc tout ce qu'on peut savoir sur Dieu et le monde, on peut l'apprendre directement de lui. C'est lui qui enseigne tout ça. C'est lui qui est aussi ça. Et Philippe a dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et le chemin pour aller vers lui. Jésus dit à Philippe, Philippe, tu es avec moi depuis longtemps. C'est toujours dans le même chapitre de Jean 14. Je crois au verset 9, il dit, Philippe, je suis depuis longtemps avec vous. Et tu me demandes de te montrer le Père. Quiconque m'a vu a vu le Père. C'est moi qui suis Dieu. Et pour aller vers Dieu, c'est encore par moi. C'est dans ce chapitre-là qui dit, c'est moi le chemin si tu veux aller vers le Père. C'est moi. Vous avez dit, mais pasteur, mais je ne comprends pas, il est Dieu. Mais après, pour aller vers le Père, c'est par lui. Oui, oui, c'est ça. Parce que là, quand il te parle, il est aussi serviteur de Dieu en tant qu'homme, un prophète du Seigneur pour nous montrer le chemin, mais c'est lui encore Dieu. Donc, il nous va t'ouvrir l'intelligence pour voir Dieu clairement à travers lui. Et c'est lui qui est la vie. Qu'est-ce que l'être humain cherche? Il cherche la vie. Au fait, il pense la conquérir par les biens matériels et la sécurité matérielle. Mais au fond, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le bonheur. Hier, avant-hier, on est parti prier devant la propriété, parce que ce n'est pas une maison, ça, c'est tout un domaine du grand-duc. De Luxembourg. Mais c'est un domaine magnifique. Je ne sais pas comment décrire ça, mais on nous a raconté que la grande-duchesse, la femme de cet homme, la maîtresse de ce domaine-là, il y a quelques années, était en dépression. En dépression, au point qu'elle a fui pour retourner chez elle à Cuba. Vous voyez, bien aimé, que le bien matériel, c'est censé donner le bonheur, mais ça ne donne pas le bonheur. Et le bonheur, c'est cette vie-là. Non seulement le bonheur, mais le fait que c'est quelque chose, un bonheur qui ne s'arrête pas. C'est ça la vie. Et seul Jésus donne cela. Demandez à tous ceux qui sont riches, qui se droguent, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le bonheur dans leur bien matériel. Dans leur position de pouvoir, ils n'ont pas trouvé le bonheur. Jésus dit, c'est moi la vie. Bien-aimé, avec tout ce que nous citons, comment tu peux aller ailleurs encore? Il dit, je suis. Bien-aimé, il ne laisse aucun doute pour que tu dises, bon, là, lui, il a dit, donne 20%, je peux aller chercher 80% ailleurs. Non. Il dit clairement, je suis, c'est moi. Ce qui explique que les chrétiens qui se sont retrouvés en prison, persécutés, maltraités, ils ont gardé la foi. Parce que tant qu'ils gardaient Jésus, ils avaient le bonheur. Ils avaient la vie. Comment expliquer que tous ces gens-là, dans des mauvaises postures, positions, ont quand même gardé la foi intacte? Les Adoniram Judson. Dans la souffrance en Birmanie, sa voix même qui ne sortait plus, il était obligé de parler faiblement, que quelqu'un d'autre parle plus fortement pour que les gens entendent. Mais ils ont gardé la foi. Il y a un qui a, je crois, traduit la Bible en Inde, qui n'arrivait plus qu'à utiliser ses yeux seulement, tellement, parce qu'il était paralysé. Mais avec tout ça, il a pu, avec une technique, traduire quand même la Bible, faire des choses. Tout en gardant la foi au Seigneur. C'est des gens qui avaient saisi ce qu'on est en train de lire. Jésus, c'est lui la vie. Comment vous expliquez que les vieux chrétiens, quand ils demandent souvent des choses, parfois, ça traîne. Mais quand ils vont prier pour quelqu'un d'autre, ça s'exécute directement. Mais pour eux-mêmes, ça traîne. Parce qu'à chaque fois, Dieu veut nous aider à ne pas nous perdre, à croire que le bonheur est ailleurs. Il veut toujours nous recentrer sur le fait que le bonheur, la vie, c'est Jésus seul. Donc, quand tu as demandé quelque chose comme tu le prends comme indispensable, hein, et dis « Ah, mon fils risque de s'égarer. » Il fait traîner un peu pour que tu finisses par te satisfaire de Jésus. Et c'est là que tu vois tout d'un coup ce que tu avais demandé autrefois, vient, et tu n'as pas le même plaisir qu'avant. Pourquoi? Parce que tu as le vrai bonheur par Christ seul. Nous continuons. Jean 19.
Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages.
Amen, amen, amen. Je suis la porte. Vous savez, il y a des phrases, j'ai envie de dire ça dans beaucoup de langues à la fois. Mais nous ne voulons pas faire du spectacle. Mais je pense que dans la fin des temps, donc dans le royaume de 1000 ans, je pense qu'on écoutera les choses en plusieurs langues à la fois. Parce que ça fait beau, extraordinaire. Je suis la porte. Si quelqu'un veut être sauvé, c'est par moi qu'il doit entrer. On a compris. C'est Jésus la porte. Ce ne sont pas tes œuvres. C'est Jésus la porte. Ce n'est pas ta discipline. C'est Jésus la porte. Les œuvres sont bonnes, pas de problème. La discipline, c'est bien. Mais ce n'est pas ça la porte. Ton église, c'est bien, mais ce n'est pas ça la porte. Tes principes, il y en a qui ont des principes. Tes principes, c'est bien. Parfois, il y a parfois de mauvais principes, mais ce n'est pas ça la porte. pour aller au ciel, pour être sauvé, pour être pardonné, il n'y a que Jésus. Parce que Jésus seul a payé par son sang coulé à la croix, à ta place. Il est le seul qui l'a fait. Il n'y a aucun prophète qui l'a fait pour toi. Aucun. Il y a des chrétiens qui faisaient un sketch autrefois, quand on était jeunes, où quelqu'un tombe dans un trou. Il y a un prophète qui passe, je crois Bouddha qui passe, qui dit, mais concentre-toi, plie les jambes en position, ça s'appelle comment la position, j'ai oublié. Médite. Il y aura une élévation, peut-être tu sortiras du trou. Et Mahomet qui passe là, est-ce que tu as déjà fait le pèlerinage à la Mecque? La personne est dans le trou. Tu fais tes 5 prières. Et d'autres encore sont passés. La personne était toujours dans le trou. Mais Jésus est passé. Il est descendu dans le trou. Il a pris le monsieur sur ses épaules. Il est sorti avec lui du trou. C'est lui qui sauve. Il est la porte. Parce que lui seul a pris tes péchés à la croix. Il a pris ta situation. C'est pourquoi il peut t'en sortir. Les autres prophètes sont comme des professeurs, sont comme des enseignants qui te disent, mais il ne fallait pas que tu passes par là, on t'avait dit. Regarde, maintenant tu es tombé dans le trou. Voilà ce que font les autres prophètes. Il fallait suivre le chemin A. Maintenant, prie, hein. Mais Jésus dit, oh, tu souffres tant. Veux-tu que je te sauve? Ben oui, Seigneur. Alors il descend. Il te porte et il sort avec toi. Et pourquoi il a cette permission-là? Parce qu'il a déjà payé pour tes fautes à la croix. C'est pourquoi il peut te sauver aussi parfaitement. Toi, tu veux trouver le salut chez qui? Chez qui? Il y a trop de distractions aujourd'hui. Revenons à Jésus. Seul, il sauve. Ce ne sont pas tes études qui vont te sauver, ni un bon parcours académique avec des stages dans des endroits, dans des sociétés parfaites. Non. Ton travail se passe à la porte. La porte, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme, une église qui est la porte. C'est Jésus seul. Et Jésus te rassemblera avec les gens qui pensent comme toi que lui seul est la porte. C'est ça qu'il faut suivre. Mais il ne faut pas croire qu'un endroit soit la porte. Tu seras déçu. Un humain soit la porte, tu seras déçu. C'est Jésus qui est la porte. Jean 10, 11.
Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Je suis le bon berger. Vous voyez, on a fait une progression. Il existe. Avant tout, il existe. Donc, il a une vue. Vous savez, quand quelqu'un existe avant tout, donc il a vu sur tout, il sait quoi faire avec tout. Il est avant. Il existe avant. On peut se confier en lui, donc avant que nous on soit lui, il existe. Ensuite, c'est lui qui nous éclaire, il est la lumière. Sur le chemin qu'il est encore lui-même. Et sur ce chemin-là, il nous donne la vie. Et on nous dit, dans quel but? Pour nous amener au ciel, dont il est encore la porte. Et là, on voit qu'il est le berger. Il nous protège. Sur ce chemin-là, il y a des loups. Sur ce chemin, on doit manger. Il s'occupe de tout ça. Il nous amène dans les verts pâturages. Bien-aimé, quel sauveur tu peux trouver comme ça? Qui s'occupe de toi au complet comme ça. Donc, on a commencé à décrire. Il existe avant. Il sait donc qui tu es depuis avant même ta naissance. Il t'éclaire. Il est le chemin sur lequel tu dois être. Comme on a lu le dimanche passé, le chemin, ce n'est pas une route, c'est un homme. C'est un homme, c'est Jésus. Et en te donnant, en te maintenant en vie spirituellement, il s'occupe de te protéger en tant que berger, de te nourrir spirituellement, de te panser quand il y a des blessures. C'est ça le travail de berger. De te retrouver quand tu te perds. Il y a un chant qui dit, je me suis égaré, je suis parti à gauche, à droite, mais quand je te cherche, quand je t'appelle, tu es toujours là. Chaque jour, chaque nuit, le matin et le soir, je t'appelle, tu es là. Ça, c'est le bon berger. Et la suite dit, mais les soucis du lendemain, les problèmes du quotidien, les chutes m'amènent loin de toi, mais quand je t'appelle, tu es toujours là. Voilà. Tout ça, ça m'amène loin de toi. Mais quand je t'appelle, vous savez, les phoques, les mamans phoques, elles mettent bas, elles laissent les bébés sur la plage et elles vont chercher la nourriture dans la mer. Elles prennent vraiment du temps. Et quand elles reviennent, chaque maman phoque entend le bruit de son bébé, le cri de son bébé. Et elle peut aller vers son bébé. Ben, le Seigneur nous connaît chacun individuellement. Il est le seul. Ce n'est pas le pape Jean-Paul, le pape, il s'appelle comment aujourd'hui non, François. Lui, il ne sait même pas où tu habites. Il ne te connaît même pas. Mais on a un berger qui existe avant toi, qui te connaît. Quand tu appelles, il est toujours là. M'amène loin de toi, mais quand je t'appelle, tu es toujours là. Bien-aimé, c'est beau, c'est extraordinaire. Tu te retrouves en prison, tu l'appelles, il est toujours là. Hier, j'ai écouté le témoignage d'un jeune qui s'appelle Mathieu. C'est ce garçon-là qui a fait qui a été dans le banditisme, la vente de drogue, il se retrouve en prison. Donc, le premier jour où il se retrouve en prison, l'idée qui lui vient en tête, c'est de se trouver une Bible. Mais pour vous dire que ce n'est pas une idée qui venait de lui, c'est que lui, il comptait même voler une Bible. Je me suis dit, je vais aller dans les chambres, dans les autres chambres, même je vais voler peut-être une Bible. Et quand il va au centre, là où on prie, là, à la salle de la prison, parce qu'on a su qu'il est, qu'il voulait, parce que lui, il avait écrit, quand il est entré en prison, chez eux, là, on demande la religion, il avait mis chrétienne, et donc l'aumônier de l'endroit l'avait contacté pour dire, mais tu viens. Lui, il avait planifié quand il va aller, il va voler une Bible. Vous voyez que on lui a dit, prends une Bible. Ça, c'est qui lui a dit ça? Quand le bon berger. Parce que sa maman, c'était quelqu'un qui priait. Qui avait confié son fils à Dieu, malgré tout. Qui a chassé son fils à 15 ans, puisque son fils ne voulait pas respecter les choses. Elle l'a chassé. Parce qu'elle dit, ça, c'est la maison. Ma maison, tu dois vivre selon les règles. Si tu ne veux pas, tu sors. Vous voyez, bien aimé, la vérité, c'est important. Elle l'a chassé. Et il a plongé jusqu'à se retrouver en prison. Mais vous voyez, la vérité, tôt ou tard, ça paye. Parce qu'il est revenu. Parce qu'il y a le bon berger. Parce que la vérité, ce n'est pas seulement ne pas voler, ne pas mentir. La vérité, c'est se confier en Jésus. C'est se confier dans le bon berger. Quand nous, les parents, nous devons faire la discipline, ce n'est pas seulement parce qu'on veut qu'il y ait de l'ordre, mais c'est parce que nous voulons honorer notre Seigneur. Nous voulons que nos enfants suivent le Seigneur. Et si on le fait vraiment dans cet esprit-là, Dieu va les récupérer pour nous. Mais si on fait toujours des compromis pour le mettre à l'aise, pour ne pas qu'il fuit, pour que... Eh, bien-aimé, tu veux honorer Dieu ou bien mettre quelqu'un à l'aise? Tu veux une stratégie humaine ou bien la stratégie de vérité? Ce garçon, sans sa rente, bien-aimé, il touchait dans les... Il est arrivé à toucher parfois dans les 9000 euros par mois. Il était vraiment loin de Dieu. Mais le premier jour où il entre en prison, il y a quelque chose qui lui dit, il faut que tu te trouves une Bible. Le bon berger, il va récupérer. Quand je t'appelle, tu es toujours là. Ah, bien-aimé. Et le jour où le prédicateur prêche en prison, ils ont invité un prédicateur. Lui, le prédicateur, à la fin, il dit que celui qui veut accepter Jésus se lève. Il sent qu'il doit le faire, mais il refuse. Il regarde les autres, il dit non, 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 non. Et le prédicateur dit, si ton ventre gargouille, c'est que c'est Dieu qui t'appelle. Et c'était vrai, son ventre était en train de gargouiller. Et il a voulu, il a eu encore une expression de son corps. Le prédicateur a dit, si dans ton corps il y a telle chose, c'est que c'est toi. Mais bien aimé, ça c'est qui fait tout ça? Le bon berger. Il va laisser 100 brebis pour aller chercher une. Il laisse 99 pour aller chercher une. Le bon berger. M'amène loin de toi, mais quand je t'appelle, tu es toujours là. Mais quel sauveur merveilleux. Je suis le bon berger. Tout le reste, mes bien-aimés, mais c'est beaucoup, c'est des profiteurs. Le William Marion Branham, profiteurs. Des gens qui se disent prophètes, qui vivaient comme des riches. Des pachas qui profitait des brebis. Jésus dit, le bon berger donne sa vie. Il a donné sa vie à la croix pour nous. Il n'est pas venu là à dire, toi, fais ceci, fais cela, amène-moi cela. Non, il a donné sa vie. Voilà notre exemple. Aujourd'hui, on veut insister sur ce qu'il est. Vous savez, le but de tout ça, c'est quoi? Que tu ne bases pas ta foi sur toi-même, ni sur une église, ni sur quiconque. Tu bases ta foi sur le Seigneur. C'est ce qui explique que quelqu'un se retrouve en prison, il est en mauvaise position. Vous savez, ce garçon-là, quand il se convertit maintenant, quelques jours après, on lui dit, on va donner ta sentence. Le tribunal, le jugement va se faire. Il se dit, comme je suis converti, ben, donc la sentence sera légère, ça sera très bien. Voilà l'idée que nous avons. On pense que c'est ce que Jésus donne qui est important. Ce n'est pas ce que Jésus donne qui est important, c'est lui-même. Je suis. Au fait, nous devons plus nous concentrer sur le je suis de Jésus que sur ce qu'il donne. Parce que dans le je suis, il y a tout ce qu'on peut vouloir. Mais par contre, dans ce qu'il donne, on peut être privé de lui-même. Jésus peut te donner un enfant, cet enfant-là va t'éloigner de lui. Jésus peut te donner un million, le million d'euros, ça va t'éloigner de lui. Mais si tu l'as lui-même, tu as tout le reste. Mais au départ, tu ne t'en rends pas compte. Vous savez quelle a été la sentence? 3 ans. Vous savez, tu vas là-bas pour écouter peut-être, on va me donner 2 mois, 3 mois, et puis je vais sortir. 3 ans. Et c'est pourquoi, quand tout ça tombe, la nouvelle naissance, c'est-à-dire que le fait que tu appartiennes à Jésus, ça te sauve de tout. Il a été bien quand même malgré ça. Parce qu'il s'était vraiment converti. C'est ça, bien-aimé, que Dieu veut nous apprendre, que c'est lui, le bon berger, c'est lui qu'on doit suivre, et non pas ce qu'il peut donner.
Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Amen. Amen, amen, amen. C'est-à-dire celui qui donne une vraie satisfaction. Et quelqu'un va dire, mais moi j'ai trop envie de telle autre chose. D'accord, mais nous te disons aujourd'hui, essaye Jésus. Parce que l'envie de cette autre chose peut t'empêcher de manger le pain qu'est Jésus. On comprend, nous avons été tous été salis, disons, transformés par le péché, pour avoir des goûts mauvais, mais qui paraissent bons à notre chair. On connaît ça. Ce que nous voulons te dire, c'est quoi? Le véritable bonheur n'est pas ce que tu penses qui va satisfaire ta chair. Pour le savoir, il faut goûter Jésus, t'approcher de lui, prier avec lui, manger avec lui. Tu réaliseras, lire sa parole, écouter sa parole, tu réaliseras qu'il est plus bon de loin que ce que tu pouvais considérer comme pain. Que ce soit les plaisirs, les distractions, les divertissements. Tu les considères comme des pains, l'argent, mais ce n'est pas du vrai pain. Ça n'apporte pas le vrai bonheur. Le véritable pain qui nourrit, qui donne la satisfaction. C'est pourquoi il dit, celui qui me mange n'aura plus faim. C'est-à-dire que lui donne la vraie satisfaction. Alors que quand tu es dans les autres pains, que ce soit la drogue, l'alcool, tu vas être satisfait 10 minutes pour en vouloir encore après. Mais quand tu es satisfait de Jésus, par Jésus, les autres choses pâlissent. Il est le vrai pain. Vous voyez, bien-aimé, son salut, il est complet. Jésus est complet dans ce qu'il est par rapport à Dieu et dans ce qu'il peut nous donner pour nous sauver, dans ce qu'il peut faire pour nous. Il est complet. Ce n'est pas juste un enseignant ou un professeur. Il est complet. Il est le pain. Jean 11, 25, puisque le temps passe, bien aimé, Jean 11, 25. Maintenant, c'est l'exceptionnel. Jean 11, 25.
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort.
Amen, amen. Je suis la résurrection et la vie. Il est le seul à donner la résurrection. Qui a déjà vu la science ressusciter un mort? Il est au-dessus de tout ça. Il peut, il a ressuscité Lazare après 4 jours qu'il était mort. Mais tu vas aller chez quel autre prophète qui te rassure sur la résurrection? Qui te rassure sur ça? Il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui ressuscitera. Du coup, tu peux affronter la mort tranquillement parce que tout ce qu'on a cité, on peut citer comme humains, grands, héros, tout ça. Ils ont affronté la mort, ils ont perdu. Mais toi, tu vas affronter la mort en vainqueur parce que tu es en Jésus qui a vaincu la mort. Je ne peux pas, parce qu'il y a encore des choses à dire. On prend Apocalypse 1, 18 pour clôturer par rapport au verset. Apocalypse 1, 18.
J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles.
Non, 1,18. Je suis.
Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.
Je suis le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Il y a à un autre endroit ce qui l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Donc, voyez bien aimé, il est le début de tout et la fin de tout. Or, nous savons qu'il n'y aura pas de fin. Il n'y a pas non plus de début. C'est une façon de dire, il est là avant tout et après tout. C'est toujours lui. En fait, tout est, il circonscrit tout. Tout est en lui comme ça. Nous sommes à l'intérieur. C'est lui qui circonscrit tout. C'est Jésus. Et tu vas aller à où alors? Qui est-ce que tu vas entendre dire ça, qu'il est le premier et le dernier? Qui circonscrit tout. Il n'y a que Dieu dans l'Ancien Testament qui le dit. Et là, c'est Jésus qui dit, je suis. Dernière révélation qu'il donne à l'apôtre Jean. Je suis le premier et le dernier, le vivant. Tout le reste, c'est des morts. Lui, c'est le vivant, le puissant de Jacob. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. L'avenir est entre ses mains, bien-aimé. Voilà le sauveur que nous avons. Bien-aimé, je parle rapidement là. Sur le plan de la naissance, Jésus est le champion. Il est né sans l'intervention d'un homme. La puissance du Saint-Esprit entrant dans Marie et a produit. Et il est le seul à naître comme ça, par la puissance directe du Saint-Esprit. Sans l'intervention d'un homme. Jésus-Christ, en termes de péché, dans Jean 8, 46, il dit, « Qui me convaincra de péché ?» Il est le champion côté sainteté, il n'a jamais péché. On avait fait une pensée du jour où on avait calculé le nombre de jours qu'il a fait sans péché. Voilà. Vous faites 365 jours, vous multipliez par 33. Vous imaginez tous ces jours-là, il a vécu ça sans péché. Sans péché. Environ 12 000 jours. Vous avez... Tu te réveilles, tu fais 10 heures de vie, tu parles aux gens, tu te fais maltraiter, injurier. Pendant 12 000 jours, tu ne pêches pas une seule fois. Est-ce que vous comprenez à qui on a affaire là? Un jour, j'étais assis, cette idée-là m'est venue, et une phrase disait, chaque jour sans péché. Alors là, on a affaire à quelque chose de solide. Là. Voilà ce que la phrase disait. On a affaire à quelque chose de lourd. En Jésus, on a affaire à quelque chose de lourd. Vous réalisez, 12 heures par jour, on peut estimer, pendant qu'on dort peut-être, on ne va pas pécher, mais admettons, 10 heures par jour pendant 12 000 jours environ. Sans péché. C'est extraordinaire. Champion dans la médecine. Plus fort que les médecins, Jésus a donné la vue aux aveugles. Il a chassé la fièvre de la belle-mère de Pierre. Il a ressuscité même... Il est mort. Il a ressuscité. Parce que si tu peux ressusciter un mort, donc tu peux guérir tout. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Une dame qui avait le dos courbé pendant 18 ans a été redressée. Un aveugle né a vu. Une femme qui souffrait de perte de sang. C'est une forme de cancer. Elle a été guérie. Voilà ce qu'est Jésus. Oublie tes déboires. Mets ta foi en Jésus que nous sommes en train de présenter là. Base ta foi, parce que le but de cette prédication, c'est quoi? Que nous basions notre foi sur ce que Jésus dit de lui. Je suis ceci, je suis cela. Pas sur ce que toi t'as vécu, mais sur ce que lui dit de lui. Et tu verras, tout changera. Beaucoup de gens critiquent, ils disent, mais oui, mais Vous prêchez la parole. Aujourd'hui, à notre époque, les gens prêchent la parole, mais on ne voit pas de miracles. Oui, mais les Écritures disent, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils prêchaient la parole et Dieu appuyait la parole par des miracles. Est-ce que ça veut dire qu'on arrête de prêcher la parole? Est-ce que ça veut dire qu'on imite les faux prédicateurs? Non. Puisque la promesse est que les miracles accompagneront la parole. Mais même si je n'ai pas vu le miracle aujourd'hui, je continue à prêcher la parole. Puisque la promesse dit que les miracles viendront de la parole. Parce que c'est ce genre de phrase a distrait beaucoup de gens. Ah frère, vous suivez ces gens-là, ils prêchent, mais il n'y a pas les miracles. Et les gens ont suivi les mauvais à cause de ça. Mais or, la parole ne dit pas qu'il faut suivre ceux qui font les miracles. D'ailleurs, ça nous avertit en plus encore. On nous dit attention à ceux qui font les miracles, il y aura des faux miracles. On nous dit tout simplement, au fait, c'est une exhortation à croire profondément et on verra les miracles. Ce n'est pas une exhortation à changer de méthode, non? Continuons, bien-aimés, continue à croire en Jésus. Continue à confesser ce qu'on est en train de citer de lui. Confesse ça dans ta vie. Aujourd'hui, il n'y a pas le miracle. Demain, tu vas voir. Mais ce qui serait malheureux, c'est que tu viennes au secours, comme on dit en France ici, tu viennes au secours de la victoire. Tu attends qu'on t'annonce, « Ah ben, les gens priaient à Mont-Saint-Aignan, et puis il y a un mort qui passait, on a amené un mort au cimetière, il est ressuscité à côté de la cellule de prière. » Et là, oh, mais Jésus est vivant, oh, mais tu attends seulement la victoire. Tu viens au secours de la victoire. Il faut croire quand il n'y a rien. Parce que c'est ce qu'on dit est la vérité. Amen. Est-ce que quand quelqu'un a 1 million d'euros, il attend d'acheter une voiture pour se réjouir? Oh, mais non, le million lui fait déjà de la joie. Parce qu'il sait qu'avec ce million-là, il peut s'acheter une voiture. Donc, quand quelqu'un a la parole, il ne doit pas attendre de voir un miracle pour se réjouir. Puisque Dieu certifie que cette parole produira les miracles. Et on a suivi les mauvaises tendances. Ah oui, c'est bien, vous parlez bien, mais il n'y a rien. Mais on ne nous dit pas que, puisqu'il n'y a rien, Dieu a changé. Donc, on doit au contraire continuer pour qu'il y ait. Puisqu'on nous promet que c'est ça qui produira. Le plus grand médecin, c'est lui le champion. Vous allez prendre quoi? L'astronomie. Mais c'est le plus grand encore. Quand il est né, toute une étoile a bougé. Une étoile a bougé pour lui. Il est le champion. Vous allez prendre quoi? La science. Jésus n'a pas écrit des livres de physique, mais il a dit à la tempête, silence, tais-toi. Bon, le truc que toi, tu étudies en physique pendant 25 ans, lui donne des ordres à ça. Est-ce que qui connaît la physique plus que qui est le plus fort en physique? Puisque tout ce que toi, tu fais, la météo, tu étudies, tu fais 20 ans, 30 ans d'études, lui dit seulement un ordre. Allez, silence, tais-toi, l'eau s'arrête, le vent s'arrête. Donc, qui connaît plus? Puisque lui, au fait, lui, il a la clé pour arrêter ça. Mais s'il a la clé, donc c'est qu'il sait, de quoi il s'agit. Donc, il connaît la physique plus que tous les savants. Puisque lui, il sait comment arrêter. Puisque les savants cherchent déjà même à comprendre ce qui se passe. Mais lui, il sait comment manipuler ces choses-là. C'est le plus grand savant. Champion encore, là. On va citer quoi? L'amour. Qui est champion dans l'amour. Quand quelqu'un, pendant qu'il est crucifié, dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les gens qui sont en train de le crucifier, il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous, il y a même juste pour dire pardon à la maison. Tu n'arrives même pas à dire pardon. Tu dis « Mais c'est lui qui a commencé. C'est elle qui a commencé. » Mais Jésus a dit « Père, pardonne-leur pas. » Ce qu'ils savent pas, ce qu'ils font. Alors qu'on est en train de le crucifier, on est en train de lui faire du mal, de l'injurier. Qui peut avoir un amour comme cela? Qui va à la croix pour la personne qui le déteste? Qui se sacrifie pour la personne qui le déteste? Qui va faire ça? Qui va avoir un amour pareil? Quitter son trône pour venir en homme, puis en esclave, puis mourir à la croix pour les gens qui ont péché, qui sont mauvais. l'amour du Seigneur est incomparable. Ça, c'est là où il est champion, 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 champion de loin. L'humilité, qui va rivaliser avec celui qui est Dieu et qui vit un homme? Quelle humilité! Et quel homme sans endroit où dormir? Quel homme sans cortège? Jusqu'à la mort à la croix, qui peut être plus humble que ça? Où est-ce que vous en avez trouvé? Il est encore champion de l'humilité. Quel domaine? Ah, vous voulez, même l'argent, vous voulez attaquer l'argent? Eh bien, il est encore champion là. Ah bon, comment? Quand il a fallu payer les impôts, il a dit à Pierre, va pêcher. Et dans le poisson, tu trouveras 2 pièces d'or, tu vas payer l'impôt pour toi et pour moi. S'il peut sortir l'argent d'un poisson, s'il y a 10 millions de poissons, ça va avoir combien d'argent? Vous avez dit, mais oui, mais il n'y a pas 10 millions de poissons. Mais il peut en sortir, puisque dans Luc 5, les gens ont pêché, il n'y avait rien. Lui leur a dit, jetez le filet, c'est le poisson. Il y en avait tellement que ça a déchiré les filets qu'ils utilisaient. Donc, il peut sortir des milliards de poissons et dans les milliards de poissons, 2 pièces d'or. Vous voyez, même en termes de ça, il est encore le champion. Il est écrit, l'or et l'argent lui appartiennent. Il est le champion. Alimentation, le champion encore. C'est lui qui a multiplié 5 pains et 2 poissons. De sorte que 5000 personnes ont mangé. Là, nous, on tremble. Pénurie, oui, le tournesol. Jésus est le champion. Il peut t'amener à imposer la main à ta bouteille d'huile, le tournesol, ça ne finit pas. Comme on a vu ça avec Élisée. Avec Élie. Et Élisée. Il est champion dans tout ce qu'on peut citer. Et pour clôturer, il est champion par rapport à la mort. Là, c'est l'unique des uniques. Donc, il n'y a même pas de comparaison sur ce plan-là. Il est le seul à avoir vaincu la mort. Et l'avoir prédit, dit, je vais mourir, le troisième jour, je ressuscite. Et c'est ce qui s'est passé. C'est le champion. Alors, à partir d'aujourd'hui, que ta foi change, que ma foi change, se rappeler en qui on a cru désormais. C'est dans le « je suis » qu'on doit se réfugier, pas dans ce qu'il a fait pour nous dans le passé, mais dans le « je suis ». Qu'est-ce qu'il est? Il dit de lui. Seigneur, quel sauveur merveilleux nous avons comme toi, Jésus. En toi, Jésus. Quel sauveur, le champion de tout, en tout. Tu es champion. Alléluia. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Amen, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli pour nous. Merci de nous révéler ce que tu es complètement, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons placer notre confiance en toi, toi l'alpha, l'oméga, en qui, Seigneur, nous pouvons nous reposer complètement du début à la fin. Seigneur, tu, en tout temps, Seigneur, en tout lieu, devant tout homme, nous allons confesser que toi, Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Sois béni au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur de nous amener à t'adorer. Même si les humains sont jaloux de cette adoration. Même si les gens n'acceptent pas. Mais nous savons que tu es celui qui dit « Je suis ». À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, soyons certains, Jésus dit « je suis ». Même quand on évangélise, ne forçons pas, présentons les choses comme l'apôtre Jean. Et celui qui dit qu'il est la lumière, il va éclairer. Celui qui dit qu'il est le bon berger va récupérer les gens perdus. Mais présentons et ne forçons pas, ne mettons pas la chair dans l'affaire. Que Dieu nous bénisse. Amen.